Bon, ça commence pour lui, il est incroyable ce mec. Il a vraiment un...
C'est du live.
Une horloge dans la tête.
C'est du live. Concentration.
Oh là là.
De croix.
Quel track.
Dingue.
Oh, mais on est pétri.
Comment tu fais pour faire de la scène comme ça à longueur d'année? C'est dingue. Mes amis de jeudi soir, bonsoir. Bonjour, bienvenue, belle année. Prenez l'entrée qui vous plaira le mieux. On est parti pour une heure de bienveillance dans l'afterwork de Radio Campus Angers avec une invitée qui fait du bien et qui fait le bien autour d'elle. Voilà, elle est coach et quand il s'agit de coaching, eh bien en général une petite ambiance s'impose. Looping, s'il te plaît, t'as une ambiance, quelque chose qui puisse...
Radio Campus Angers.
Voilà.
Tout de suite.
L'afterwork avec Olivier Pierre.
Vous voulez bien qu'on respire tous les trois pendant à peu près une minute?
Et bienvenue dans l'afterwork de Radio Campus Angers. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un moment de détente et de lâcher prise autour du parcours de la vie, de l'œuvre d'une personne qui peut changer votre vie. En tous les cas, la manière de voir votre vie, elle est coach. Coach de quoi? Eh bien, vous allez le découvrir en passant près d'une heure avec Oriane Savouré-Lucas. Bonjour Oriane.
Bonjour, merci de votre accueil.
Bienvenue avec nous sur Radio Campus. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais c'est pas si mal que ça.
Mais c'est très bien, merci.
C'est des clichés, mais on est là pour les...
Oui,
pour les
briser. Ouais. Bienvenue en tout cas dans ton afterwork. Je suis de nature curieuse et j'ai découvert grâce à ton travail audio des podcasts autour de thématiques de rencontres aussi, comme nous un petit peu. C'est comme ça que je t'ai découverte et je me suis demandé ce qui t'avait inspiré pour proposer ces capsules, ces podcasts diffusés chaque vendredi via ton site internet et qui remporte un franc succès. Donc on est là pour en parler.
Avec joie.
Voilà. Parce qu'on parle comme ça quand on est coach, n'est-ce pas? Nous allons découvrir ensemble donc ton parcours et ton métier, qui ne pourrait pas en être un s'il n'était pas alimenté par la passion de l'autre, de l'humain. Merci d'avoir accepté ce moment avec nous, cette invitation, pour ce nouveau rendez-vous jeudi cal. Oui. Une équipe
Amen.
De choc à la réalisation, Clément Looping. Coucou Clément.
Salut.
Salut Clément, la tour
Fernand. Et les photos, l'envers du décor sont à découvrir sur la page Facebook de l'émission que je ne peux que vous encourager à liker. Et les dites photos sont signées Aurélien Tremblay. Coucou Aurélien.
Salut.
Coucou. Il est partout.
Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de casque.
Et puis autour de la table, le plus bavard, l'éloquence est signée Pascal Boursier.
Ah, alors je vais essayer de pas te couper aujourd'hui, d'accord.
Pas
je
mal.
Je sais ce que ça veut dire, je vois le message qui vient de passer. Très bien.
Bienvenue très bien, à toutes et à tous, After Work dièse 157, allons-y. Hop, c'était le moment du...
L'After Work sur Radio Campus Angers, 18h, 19h.
Oui, c'est pas grave. Comment ça va, Oriane?
Ben, ça va très bien, Olivier, merci. Merci de votre accueil.
Énormément de questions, on a commencé en antenne, mais il fallait garder notre spontanéité pour ce moment en direct ensemble sur Radio Campus Angers dans ton after work. Donc, qui es-tu? Comment ça se fait? Comment on devient coach? Quel est ton parcours un petit peu? Faut que tu nous racontes.
Alors, ça dépend, on a combien de temps.
Ça commence quand?
Prends ton temps.
C'est une vocation. C'est une vocation. On appelle ça s'occuper des autres ou se prendre soin des autres ou...
Je sais pas si c'est ça, en tout cas c'est le fruit d'un parcours de toute une vie jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à maintenant, qui est pour moi une expression qui est importante, jusqu'à maintenant, qu'on peut réutiliser dans plein de choses, il n'y a rien de figé dans la vie je trouve, donc c'est plutôt intéressant.
Ouais.
Et puis c'est surtout le fruit de choix et puis d'une passion pour le choix que je porte depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été intéressée, d'aussi loin que je me souvienne, par le parcours des personnes que j'avais en face de moi.
D'accord.
Et pour comprendre ce qui faisait qu'ils étaient là où ils en sont dans leur vie aujourd'hui.
Mais ça, comment tu le verbalisais quand tu étais plus jeune? Tu disais, moi, plus tard, je veux m'occuper du choix des gens.
Pas du tout, bien évidemment. Et même le mot coaching, pour moi, c'est un terme qui est très peu connu, qui est encore pas très connu aujourd'hui, en France en tout cas, et qui ne l'était pas du tout quand j'étais enfant, puis ado. Mais en tout cas, j'ai toujours, et je ne mettais pas forcément derrière l'idée d'un métier, quand j'étais plus jeune, mais ce qui me plaisait, c'était d'écouter l'histoire des gens. Ça, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé, même dans les émissions de radio que j'écoutais, dans les émissions de télé que je regardais, les témoignages de vie, en fait, les récits de vie.
Il faut qu'il y ait une histoire.
Une histoire, et puis comprendre qu'en fait, on est la somme de nos choix, on est et même physiquement dans nos vies, on est là où on est aujourd'hui, ici, assis tous ensemble, parce qu'on a fait une somme de choix qui nous a amenés ici. Et j'ai toujours été passionnée par... l'histoire de chacun et comment est-ce que l'histoire de chacun peut venir résonner de manière universelle chez chacun d'entre nous. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un mot, une phrase, une expérience de vie qui vient nous dire, même si c'est une vie qui a priori est diamétralement opposée à la nôtre, y a quelque chose qui vient nous faire « Ah, tiens, il y a une curiosité, ou il y a une appétence, ou il y a à l'inverse quelque chose qui est très éloigné de nous et qui nous permet, soit par miroir, soit par opposition, de nous positionner dans notre propre vie. »
Et ça depuis, ouais. depuis que tu es toute jeune.
Depuis que je suis gamine, vraiment.
D'accord.
Il
y a des personnages comme ça, tu te souviens de gens qui t'ont marqué, dans lesquels tu t'es reconnue, ou à l'inverse
J'ai pas de souvenirs, là, spontanément, j'ai pas de souvenirs précis de personnes, mais j'ai des souvenirs de situations, même toutes petites, dès 6-7 ans, où j'aimais beaucoup écouter les autres parler, en fait, et raconter leur vie, que ce soit à travers des émissions que je pouvais...
Parents,
j'ai été élevée, moi, à France Inter, Radio France, en général. Et j'adorais ça. Et l'émission aussi Thé au café, par exemple, qu'animait Catherine Sellac, pour moi, c'était un bonheur régulier. Donc ça, j'aimais ça, déjà. Mais aussi dans les gens croisés au gré de rencontres, même de dîners qui étaient organisés chez mes parents, où moi, j'adorais rester avec les grands et écouter les histoires des grands. Voilà, ça m'a toujours passionné.
On dînait chez les Savourés.
Chez les Lucas, parce qu'en fait...
Chez les Lucas, pardon.
Les Savourés aussi, j'imagine, mais j'étais pas encore là-bas.
comment ça se concrétise, par exemple, dans ton premier travail, pour parler un peu de ton parcours scolaire, ou la jeune femme que tu étais, parce qu'enfant, c'est difficile de faire des choix, déjà, de métier et d'orientation.
Ouais.
Mais alors, au moment où vient le choix du premier travail, par exemple.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai toujours mis le choix, moi, au cœur de mon parcours, dès les débuts où on commence à se positionner sur les choix d'orientation.
On ne te demandera pas pour qui tu votes, rassure-toi.
Mais ça a été vraiment pour moi quelque chose d'important. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comme métier, mais pour moi, c'était une évidence que je voulais aller vers des choix d'orientation qui avaient du sens pour moi et dans lesquels je m'épanouissais. Oui. J'étais ce qu'on appelle une très bonne élève, et notamment, pour la faire courte, hein, quand je suis arrivée en seconde, moi j'avais fait des classes à horaires aménagés en musique au collège.
Ah d'accord.
Puis je suis retournée vers un lycée classique, et en fin de seconde, mes profs m'ont demandé, comme à tout à chacun, ce que je voulais faire ensuite pour la première et la terminale. Et c'était une évidence pour à peu près tout le monde qu'il fallait que je fasse scientifique, puisque j'étais une bonne élève.
D'accord.
Ah, les bons élèves vont en scientifique.
On va les garder en scientifique.
Bah voilà, quand
bien
même.
Sûr, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec la littérature.
Et on rouvrira la leçon de mathématiques avec le professeur Boursier quand même tout à l'heure.
Et oui, ma petite.
Et en fait, j'avais des bonnes notes dans ces matières. Dans toutes les matières scientifiques, j'avais des bonnes notes probablement parce que je travaillais bien et que je comprenais, mais c'était pas quelque chose qui m'appelait vraiment. En
ouais,
fait.
Ouais.
Et oui, mais déjà, t'as plus de choix.
Ouais,
il y en a qui sont moins de moi. Moi, j'avais pas beaucoup de choix quand je suis sortie de l'école.
Et en même temps, mes professeurs, y compris dans les matières littéraires pour certains, m'encourageaient vivement, fortement, très très fortement à faire du scientifique, ouais. quitte à revenir plus tard vers les lettres, mais bon, quand même, un bac S, c'est quand même plus de prestige. J'ai pas lâché, en fait, et j'ai dit, ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les lettres, c'est les langues, je pressentais que la philo allait me plaire aussi beaucoup, et donc j'ai eu envie d'aller vers ça. J'ai fait, donc, L maths, j'ai quand même gardé les maths, parce que j'aimais bien ça, quand même. Et puis voilà, mais par contre, alors côté métier, qu'est-ce que j'allais faire de tout ça ? Absolument pas d'idée, mais j'avais envie d'aller vers ce que j'aimais et de continuer à lire, voilà, quelque part déjà m'approprier et découvrir des récits, des réflexions, voilà, mettre en résonance en fait des mots avec une réalité que je découvrais et à laquelle j'essayais de mettre un petit peu de sens, quoi.
Question toute bête, tu es d'ici ? C'était déjà à côté d'Angers ?
Alors, je suis bretonne d'origine, je suis rennaise. D'accord. Donc, j'ai vécu D'accord. 20 ans à Rennes. Après, je suis partie un peu à droite, à gauche, et ça fait 4 ans que j'habite Angers. Et après, quand il s'est agi de trouver un métier...
Voilà.
Eh ben, donc, en fait,
donc
je suis
là,
partie...
Donc là, on est après quelques années après le bac ?
En fait, oui. Alors, j'ai eu mon bac. Et avant d'avoir mon bac, j'ai été prise en classe prépa littéraire, ce qui, pour moi, D'accord. m'arrangeait beaucoup parce que, du coup, j'avais pas à choisir tout de suite. Alors, je me revois, pour ceux qui ont connu cette époque, j'étais face à un Minitel. Hein, ça ne parle plus à grand monde maintenant, mais quand même.
Invention française.
Bien sûr que non.
Mais bien sûr que non. Donc, du coup, il fallait faire ses choix pour la fac. Et du coup, j'ai été un petit peu embêtée. Donc, je me souviens d'avoir mis anglais... j'ai mis histoire en 1, parce que j'ai mis anglais, je pourrais en faire comme je veux. Alors, je vais mettre histoire en 1, anglais en 2. Enfin, c'était pas du tout construit comme réflexion. Et heureusement, j'ai été prise en classe prépa, ce qui m'a permis de garder toutes mes matières littéraires que j'adorais. Mais toujours pas du tout avec une idée de ce que je voulais faire derrière. Et puis, assez naturellement, je me suis spécialisée en anglais. Donc, la logique voulait que que je devienne, en France, on devient souvent professeur de la matière littéraire qu'on s'est appropriée. Et pour le coup, ça m'enchantait pas plus que ça. Enfin, J'aimais bien l'idée de transmission, mais je me voyais pas forcément professeur d'anglais. Voilà, c'était pas quelque chose qui m'appelait particulièrement. Quoi, ouais. Voilà. Mais bon, j'étais quand même. Alors, j'étais en train de préparer l'agrégation d'anglais. Hein, j'avais passé les écrits, j'attendais les résultats, je préparais les oraux. Et alors, pas du tout convaincue de l'entonnoir qui était en train de se dessiner pour moi. Et je me souviens qu'un après-midi, j'ai cherché sur Internet. J'ai tapé. Offre d'emploi anglais.
Sur ton Minitel.
Non, alors là, on était quelques années plus tard. Et effectivement, j'avais un ordinateur et un internet. Alors, il y avait peut-être encore le... Vous savez, on avait le temps d'aller se faire un café avant ou des trucs comme ça. Mais non, je crois pas.
Ça a planté.
Et voilà. Merde. Et en fait, je me suis retrouvée à postuler pour être officier instructeur dans la marine. Officier instructeur en anglais et en français. Et je me suis retrouvée chez les fusiliers marins commando à Lorient. Et pendant 2 ans, j'étais officier instructeur. J'étais chez les Fusco. Et donc, j'ai passé mon brevet de parachutiste parce que depuis que j'avais 10 ans, je ferais du parachutisme.
C'est pas vrai.
Et du coup, voilà, j'ai formé. Moi, j'avais envie d'opérationnel. Bah, là, j'ai été servie. Je formais les fusiliers marins commando à partir en mission à l'étranger. Donc c'était toute une aventure.
Moi qui suis très vieux et qui ai fait l'armée, je les connais très bien parce que j'étais dans l'armée de l'air.
Ah bah oui.
C'est eux qui gardaient les bases.
T'en as brassé du vent. Alors là, t'en as brassé du vent.
J'ai failli partir en Allemagne pour faire une formation en fusilier commando. Et,
voilà.
Et heureusement, j'y suis pas allé. Et quand j'ai revu les mecs après, ils m'ont dit t'as bien fait.
Bah ouais.
Ouais, c'était à celui qui se démerdait. Moi j'ai téléphoné à mon père, j'ai dit tu téléphones au colonel de la base. Faut que tu me sauves la vie, c'est ce qu'il a fait. Pardon, monsieur le colonel, voilà, mon fils est chez vous. Il est pas très.
Ça va être un boulet.
Il m'a convoqué le mec. Au bout de 2 jours, j'ai été convoqué par le colonel de base 133 à Nancy-Auchet pour me faire passer un savon, les trucs hallucinants. Bref. En tout cas, bah ouais.
Voilà.
Parce que c'est quand même. C'est des mecs, hein.
J'avais 23 ans, petite jeune fille. J'avais quand même l'avantage d'être en Trailer Rangers, donc je passais un peu plus.
C'est une expérience extra.
Une super expérience de 2 années extraordinaire. J'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout.
2 années. D'accord.
Ouais, 2 années. Donc j'étais officier sous contrat court, donc j'avais pas du tout, moi, le projet de devenir officier de carrière. C'était pas du tout
donc,
mon
envie. Donc pas de question de choix. Là, tu te dis pas, je fais le choix d'aller dans une carrière militaire. C'était du prendre.
Non, alors moi, mon choix, c'était de faire... Par contre, c'était un vrai choix d'y aller, parce qu'entre-temps, j'avais eu les écrits de la grègue, j'ai passé les oraux, j'ai pas eu la grègue, mais du coup, je savais déjà que j'avais 2 offres d'emploi. J'avais à Brest, à l'école navale, et puis à l'école des fusiliers marins commando à Lorient. J'étais prise sur les 2 postes. Et j'ai choisi les Fusco parce qu'on pouvait faire du parachutisme, parce que je voulais en faire depuis que j'avais 10 ans.
On en rêve tous.
Donc voilà, donc je suis partie là-dedans. J'avais envie d'opérationnel, j'avais envie de concret. Et donc j'ai adoré parce que j'ai découvert un métier que je connaissais pas,
un univers,
des codes que je connaissais pas non plus. Je me suis retrouvée au bout de 2 jours de marine face à des grands gaillards de 10 à 20 ans de plus que moi. Qui sont tous levés au garde à vous quand je suis rentrée. Je suis montée sur mon estrade et ils sont tous rassis en croisant les bras, en me regardant, l'air de dire ma cocotte, vas-y.
Mais ils se méfiaient déjà parce que dans l'armée, les femmes, on s'en méfie encore plus que les hommes. Parce que généralement, pour arriver là, il faut de l'autorité. Et celle que j'ai connue, j'ai connu une lieutenant. Ouah. C'était. Fallait l'éviter. Il n'y avait pas de discussion possible. Ce qui était logique.
Oui, parce qu'il fallait bien
qu'elle s'affirme dans un monde comme ça.
Elle partait pas en Allemagne, elle, autrement. Mais évidemment, t'aurais été.
Je l'aurais suivi. Mais mais c'est. Donc, et il y avait beaucoup de femmes?
Alors, j'étais la seule femme instructeur de la base. Mais après, il y avait d'autres femmes officiers.
Top Gun, Kelly McGillis dans Top Gun. Kelly McGillis dans Top Gun. Voilà. C'est Oriane, la fusée Oriane est partie.
Oui, il y a 3 cadenas, vous m'en rajoutez 2, s'il vous plaît.
Non, mais c'était une expérience assez dingue. Et par contre, oui, pour moi, c'était aussi qu'est-ce que je vais faire après. Parce que c'était, découvrir un univers. Enfin, j'ai eu l'impression de vivre dans un film pendant 2 ans. Concrètement, c'était.
On est en dehors de tout. T'es en dehors de. Non, c'est vrai.
À la fois en dehors de tout et puis au cœur
de la géopolitique.
Surtout sur des départs de gars qui partent du jour au lendemain, qui ont des vies de famille dingues, qui ont des parcours de vie assez dingues aussi. Et c'était. C'est intéressant, justement, sur la question du sens aussi qu'on donne à sa vie, tout ça. C'était vraiment chouette. Et moi, au bout de 2 ans, j'ai eu envie. Alors, moi, j'avais un contrat de 3 ans. Et au bout de 2 ans, je savais qu'en fait, je voulais utiliser l'anglais mais pas pour le transmettre, mais comme outil de travail, en fait. Ça m'a vraiment aidé à clarifier ça. Et j'avais régulièrement des missions où j'étais traductrice, en fait, et interprète sur la base pour quand on accueillait des délégations étrangères. Mmh. Et je suis intervenue aussi dans des événements où j'étais l'officier de ce qu'on appelle les officiers de liaison auprès de délégations étrangères sur des événements de type euronaval, qui c'est l'équivalent du D'accord. Bourget, en fait, mais pour la marine. Et en fait, c'était pour moi génial parce que j'ai rencontré des... J'étais au cœur de négociations, en fait, auprès, avec des grands groupes, des industriels, avec des marines françaises et étrangères. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Ce qui m'a passionnée, c'est de voir à quel point l'anglais était un outil, bien évidemment, je le savais déjà, mais de communication au cœur des échanges internationaux. Mmh. Mais aussi à quel point il y avait des... comment dire, un besoin de s'approprier des codes culturels et combien l'interculturalité était une réalité. Alors là, je parle de ça, on était en 2004-2005. Les enjeux interculturels étaient pour moi tout aussi importants, voire beaucoup plus importants que maîtriser une langue étrangère. Voilà, au-delà de savoir, de connaître ces verbes irréguliers, l'idée pour moi, c'était plutôt comment est-ce que je peux accompagner des collectifs à s'approprier des codes et à poser comme postulat que l'autre face à moi est différent de moi et a des codes et des...
Au cœur de tout ça, il y a l'amour de l'humain, quoi.
Ouais, complètement. Ouais. Déjà à ce moment-là. Mmh. Et donc, du coup, j'ai refait une formation, un Master 2 en Management Interculturel à Paris et ça m'a ouvert les portes de grands groupes qui a ouvert une carrière à l'international pendant plusieurs années dans des grands groupes sur la région parisienne avec beaucoup de déplacements, de missions hyper intéressantes en gestion de projet.
Donc du commerce.
En fait, j'étais plutôt dans le domaine de la communication interne, des ressources humaines, la gestion de projet.
T'as le droit de le dire, les groupes.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé chez Schneider Electric, chez Areva, dans des groupes de consulting aussi comme Altran, chez Alcatel, voilà, dans ces grands groupes-là. Ouais, voilà. Et avec des super projets, notamment, c'était les débuts en fait du développement durable aussi dans les grands groupes. Et donc j'ai eu la chance tout de suite d'avoir des missions opérationnelles dans des grands pôles d'achat sur la responsabilité sociétale d'entreprise. C'était les prémices de tous ces enjeux-là. Et comment est-ce qu'on pouvait mettre au cœur des réflexions des entreprises et des pratiques des entreprises ces sujets. Et donc ça m'a amené à de la gestion de projet et à former des acteurs internes et externes sur ces sujets-là. Toujours en anglais, du coup, l'anglais était ma langue de travail. Mais ça m'a ouvert des nouveaux horizons et petit à petit, ça m'a emmené sur de la com interne, de la RH. Et puis un jour, j'ai eu envie de revenir dans l'Ouest parce que je suis bretonne et avec mon mari, qui depuis est devenu mon mari, on voulait s'installer dans l'Ouest. Et j'avais malheureusement, entre guillemets, heureusement et malheureusement, un CV très parisien, très grand groupe, etc. Donc c'est parfois compliqué de revenir dans l'Ouest, ou en ce qu'on appelle en France la province.
La province, c'est d'intégrer des structures fatalement plus petites.
Voilà, et en France, on aime bien recruter des gens qui ont déjà fait ce pour quoi on les recrute. C'est un petit peu plus compliqué de convaincre qu'on peut faire autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais j'ai eu une belle, belle opportunité. Je suis devenue DRH d'une grosse PME dans l'ouest de la France. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de revenir vraiment à la gestion de projet, ce que j'ai refait pendant 6 ans. Et là, j'ai 15 ans d'expérience vraiment dans l'accompagnement au changement des personnes, des collectifs et puis des organisations. Et petit à petit, ça a assez naturellement fait naître chez moi l'envie de me former au coaching, ce qui commençait à être nommé, exprimé un peu à droite à gauche.
De faire la même chose, mais pour toi, enfin en tout cas avec des...
Voilà, déjà j'avais envie de le faire et je le faisais déjà en fait auprès de managers, auprès d'équipes dans les structures dans lesquelles j'étais, où j'accompagnais à la réflexion et de la construction de plans d'action, déploiement, etc. Et à l'accompagnement au changement dans des grandes organisations ou des plus petites. Et du coup, j'ai eu envie de formaliser un petit peu tout ça par une formation et de m'approprier des outils, des techniques que finalement, j'étais un peu le monsieur Jourdain du coaching dans l'émission que j'avais précédemment. Et tout ça, petit à petit, ça m'a donné vraiment envie de mettre principalement de coaching en fait, au cœur de mon activité professionnelle. Or, dans les structures où j'évoluais, c'était pas forcément possible de faire que ça ou de faire majoritairement ça. Et petit à petit, ça a fait naître chez moi l'envie de me lancer et de créer mon activité pour vraiment construire une activité professionnelle sur mesure en partant de la personne que je suis, en fait.
Et donc, ça passe par des équivalences, enfin, ou il y a eu des formations particulières pour ça
Alors, je me suis formée en parallèle de mon travail.
Le fait d'être coach, d'avoir une certification,
ouais,
j'imagine.
Oui, ouais, tout à fait. Donc, je me suis formée il y a quelques années maintenant. Et en fait, c'était rigolo parce que j'ai vraiment eu l'impression d'arriver à la maison et d'apprendre des choses, ou plutôt de revisiter des choses que je faisais déjà ou que je connaissais déjà.
De le professionnaliser,
de
peut-être.
De le professionnaliser, voilà. Et puis bien évidemment de d'étendre, on va dire, le périmètre et la finesse aussi d'appropriation des outils, des techniques et puis des rencontres que ça permettait de faire.
Et
aussi.
C'est quoi cette formation ?
C'était une formation dans une association qui s'appelle Coach Around the World. Donc il y a toujours une dimension internationale. C'est une association de coaching solidaire, en fait, qui est une démarche qui me tenait vraiment à cœur, qui vise à démocratiser le coaching auprès de personnes qui ne connaissent pas forcément ou qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un coaching. Et ils proposaient cette année-là une formation de coaching que je trouvais intéressante dans la mesure où les formateurs arrivaient d'écoles de coaching très variées et donc avec la richesse que ça apportait en termes de contenu de formation. Voilà, donc c'est des rencontres qui durent quasiment sur un an, en fait. On se rencontre sur 3-4 jours avec des travaux intermédiaires. Voilà, c'est souvent dans ce format-là, ce qui prend la forme en fait d'un grand coaching tel que nous, après coach, on peut le mettre en œuvre avec nos clients.
Parfait. Voilà. Très bien. Allez, l'afterwork de Radio Campus Angers. On continue cette discussion, cette émission avec l'actualité d'Oriane Savouré-Lucas qui nous accompagne pour un afterwork exceptionnel. Et puisque l'on parle d'exceptionnel, eh bien ce soir, événement, salle Claude Chabrol à 20h15, la présentation par les Sweet Criminals. Pardon pour l'accent.
Il est très bien cet accent.
À 20h15, la présentation de leur nouveau spectacle. Ils étaient nos invités la semaine dernière. Et je vous encourage à nous rejoindre tout à l'heure. Claude Chabrol, 20h15, c'est 10€. C'est vraiment un cadeau pour le spectacle qui vous sera proposé. Et pour vous donner encore davantage envie, un extrait de leur visite dans ce studio. Les Sweet Criminals, Newborn Man, à tous deux, Sweet. Petit jeu de mots au passage, comme ça.
Like a street where I can walk in peace, where I can finally meet the truth I have to face. My love is like a home. My love is like wind.
un peu brouillon. Les Sweet Cream, non, ce que vous retrouvez à 20h15 à Claude Chabrol aujourd'hui même. Allez-y, 10 balles, c'est vraiment cadeau pour la prestation. Nous sommes avec Oriane Savouré-Lucas, qui vient nous parler de son parcours, qui vient nous parler de sa façon de voir le coaching. Et pour terminer avec ta formation, tu voulais, on en parlait hors antenne, et c'est toujours intéressant aussi, parce que ça fait partie de la transmission, c'est de dire qu'il faut souvent un déclencheur pour des gros changements de vie.
Souvent, c'est ce qu'on peut constater en tout cas, et c'est ce qui peut donner le petit coup de pouce pour aller vers ce qu'on avait envie de faire depuis, qui était un petit peu en sourdine ou qui était sous-jacent à un parcours. Et en fait, moi, ça s'est passé très précisément, je peux le dater même, c'est le 31 juillet 2016, où en fait, j'ai honoré une intuition qui était celle d'aller voir mon grand-père ce jour-là. Je rentrais de vacances avec ma famille en Bretagne, on allait voir mes grands-parents le lendemain chez eux, et puis je me suis dit non, je vais y aller aujourd'hui, puis je fais l'aller-retour et on ira demain. Et en fait, mon grand-père, ce jour-là, est décédé, et c'est moi qui ai accueilli son dernier souffle, en fait. Ça a été 10 minutes de vie qui ont changé ma vie. Pendant une heure, mon grand-père était de toute façon était mourant, et il était revenu à la maison, et pendant une heure avec ma grand-mère juste avant, on avait discuté autour de mon grand-père, et puis à un moment donné ma grand-mère m'a dit je te laisse avec ton grand-père, j'ai 2-3 choses à faire. Il y avait plein de monde autour, mais pas dans la pièce où j'étais avec mon grand-père. Et puis tout à coup j'ai senti que c'était la fin, en fait, et j'ai d'abord eu un petit moment de panique où je me suis dit moi j'avais jamais été confrontée à la mort. J'avais mes arrière-grands-parents qui étaient décédés quand j'étais petite, mais ça s'en tenait là, quoi. Et donc j'ai vraiment eu un moment de panique d'abord, et puis j'ai tout de suite senti qu'en fait c'était là ma place, et que je me voyais pas partir chercher quelqu'un, je me voyais pas crier pour appeler quelqu'un, parce que c'était pas à propos dans la situation et le moment qui était en train de se passer. Et donc j'ai choisi de rester là, et ça a été une évidence. C'est comme si on s'était choisi, en fait, mutuellement, et que c'était ce qu'il y avait à faire et ce qu'il y avait à vivre. Et puis, ça a été 10 minutes où il y avait beaucoup de paix et de joie, en fait. C'est très bizarre, peut-être, d'entendre ça, mais
pas
c'était...
Pas de mots, aucun mot.
Ouais, parce que mon grand-père, il partait vraiment. Apaisant. Moi, je l'ai accompagné avec des mots, par contre, et puis j'ai senti que... Ouais, j'ai senti qu'il y avait, en fait, ça allait, c'est une transition. Il y avait quelque chose en cours vers quelque chose d'autre. C'était très bizarre. J'avais jamais conceptualisé tout ça, j'avais jamais imaginé tout ça. Mais en fait, ça a été un moment très puissant, très fort, très bref aussi. Et qui m'a fait me dire, en fait, j'ai eu raison d'honorer mon intuition ce jour-là. C'était important. Ça m'a fait du bien d'être là et d'avoir fait ça. Et c'est très bizarre, mais ça m'a ouvert un peu à une nouvelle dimension. Et je me suis dit, voilà, la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a deux vérités. On sait que nos journées font 24 heures et on sait qu'on va tous mourir un jour. Donc concrètement, maintenant, je fais quoi, en fait? Qu'est-ce qui a du sens pour moi, et qu'est-ce que j'ai envie d'honorer comme envie? Et puis surtout, mourir sans regret, en fait. Et cette envie-là, j'avais... le coaching, c'était déjà dans ma vie d'une manière ou d'une autre, mais... Voilà, assez naturellement, cette envie-là s'est réveillée, et surtout l'envie de construire quelque chose qui soit à partir de qui j'étais, qui soit, de me créer une activité sur mesure à partir de qui j'étais. Et qui j'étais, c'était aussi les arts, parce que moi je suis musicienne, je fais du théâtre, je fais du chant, et j'avais envie de mettre tout ça, non plus en sous forme de silo.
Est-ce que tu peux aller sur... Dis tout de suite ce que tu fais pas, finalement.
Bon, l'histoire du grand-père, moi, ça me...
Ouais.
Tu vas nous voir, c'est mal.
Alors, j'ai pas prévu les mouchoirs.
Déjà qu'avec l'histoire des parrains, j'étais moitié... L'afterwork de Radio Campus Angers, consacré à Oriane Savouré-Lucas. Ça continue, les amis, le temps de laisser libre antenne à Monsieur Pascal Boursier. Allons-y. Merci, Clem.
L'afterwork. J'ai un peu peur, du coup, moi.
Ah oui, il a prévenu, hein.
Billet.
Je vais être taquin, il a dit.
C'est à rallonge, il repasse sur notre...
Hey, good!
A good afternoon, after worker, hackers, et mes créants de France et de Navarre, bien le bonsoir. Je suis évidemment très fébrile et très impressionné de te rencontrer, Oriane. Effectivement, cette histoire de coaching est quand même très présente dans notre société d'aujourd'hui, et je t'avoue qu'il ne se passe pas une semaine, voire une journée sans que je ne croise une personne qui me dit « Oh, j'ai tout largué pour être coach !» Ce qui est d'ailleurs très bien, puisque tout le monde le sait, s'occuper de quelqu'un, c'est aussi s'occuper de soi-même. Je crains que bientôt, il y ait plus de coach que de clients. Mais bon, c'est quand même une très bonne idée. Aide les autres, le ciel t'aidera. Voilà une nouvelle maxime, qu'elle est bonne. Alors, bonne et... Bon, évidemment, moi aussi, j'ai envie d'en être, de ceux qui font du bien aux autres. Mais pour cela, il faut d'abord faire un petit auto-bilan, une petite auto-évaluation de ses aptitudes à faire le bien autour de soi. Plus près de toi, mon Dieu. C'est très facile, mon Dieu. Alors, petit bilan. Alors attendez, faut d'abord que je m'allonge, que je me détends. Rien que ça, déjà, ça me stresse. J'ai l'impression d'être chez un psy. Donc, en grand danger de confusion mentale entre deux sanglots et trois mouchoirs, et donc finir par dire n'importe quoi, donc finalement finir par faire n'importe quoi. De toute façon, le meilleur psy que j'ai jamais entendu, c'est Florent Pagny, qui le disait très justement.
Dis-moi, pourquoi tu dis ça ?
Et oui ! Pourquoi ?
Pourquoi t'y crois pas ?
Mais oui !
Pourquoi t'y crois plus ? Pourquoi tu sais plus ?
Voilà, merci. Tu vois, si déjà t'arrives à répondre à ces trois questions ou quatre questions, tu devrais t'en sortir sans trop de bobos. Mais, soit, allez, honnêteté, transparence, vivons l'expérience de l'instant présent. Bilan ! Mon orgueil me rend aveugle, mon ego me rend con, mon autre égoïsme, celui-là, me rend individualiste, mes ruminations m'obstruent les idées, mon allergie chronique à la méditation m'énerve, bref, tout ça ne va pas m'aider à trouver la voie du changement facilement. Bon, une seule solution, me faire coacher pour ensuite coacher. Vraiment ? Tout simplement, et comment ? Eh bien, tout simplement en allant sur ton site, ô belle Riane.
Oh,
pour prendre le bon départ, les bonnes habitudes dès le début. Allez, j'y suis sur ton site. J'ai décidé de vérifier grâce à tes podcasts si j'avais une fibre suffisante pour le coaching. Je m'explique. Tout d'abord, je suis comédien. Je vis ma vie comme un grand feuilleton par épisode. Et toi, c'est ce que tu fais dans tes podcasts puisqu'il y en a 56. Et surtout, j'ai comme beaucoup d'entre nous rencontré beaucoup de monde avant de trouver l'âme sœur. Allez, générique du feuilleton, Oriane ou Pascal.
Il y en a qu'un pour faire ça. Heureusement.
Merci, attention, épisode 0. Je reprends exactement le titre des podcasts d'Oriane.
Okay, d'accord,
ok. Épisode 0, l'intention. Tu m'étonnes, dès que j'ai 18 ans, l'intention est claire, me barrer de chez moi pour vivre au Jardin d'Éden. Épisode 1, au restaurant. Pas de soucis, chez Mémé dans les orties, on mange, on boit, on rencontre. Et même plus si affinité, on emballe. Bon, jusque-là, Oriane, à vous, j'ai quand même tout bon dans les critères.
Carrément.
Épisode 3, bye bye la cinglinglin. Ok, je ne remets plus rien à demain, je prends le taureau par les cornes et je me lance. Épisode 4, conversation avec Jennifer. Putain, un speed dating avec la chanteuse. Alors là, ça commence vraiment à m'intéresser, ton feuilleton. Épisode 5, vous êtes ici. Ok, petit podcast pour repérer dans le métro si je suis paumé, pas con. Jennifer n'attend pas. Épisode 6, conversation avec Sophie. Oh là là, attends, affaire Jennifer pas conclue, je suis déjà sur une autre date. Non, j'adore. Épisode 7, l'embarras du choix. Tu m'étonnes, en plus la photo du podcast, c'est un présentoir de petits canards jaunes. Dis donc. Oriane, mais c'est coquin tout ça, hein ? Épisode 8, conversation avec Marlène et Johanna. Et allez hop, pardon maintenant, toujours plus fort. C'est mieux que de s'inscrire à Mythique ton truc là. Épisode 9, danser avec le chaos. Ah bah évidemment, ne m'en demandez pas trop, je ne suis qu'un homme, hein. Soit avec Jenny, l'autre avec Sophie, après avec Marlène, puis Johanna. Allez hop, j'avance un petit peu dans l'épisode. Allez hop, épisode 12, des dommages sans intérêt. Ah bon ? Est-ce que je suis obligé de reconnaître tous les enfants ? Et ça continue comme ça jusqu'à l'épisode 56, des rencontres, oh, des conversations, des Pères Noël, bref, la vie Oriane jusqu'à l'épisode 55, soigner sa sortie. Bah merde, bah quoi, pourquoi c'est fini ? Je meurs là, c'est quoi ? Ah non, je vais continuer le feuilleton moi ! Bref, évidemment, tout ce que vous venez d'entendre n'est que l'interprétation et la divagation d'un petit mecton à queue en tire-bouchon qui se bat pour ne pas être balancé comme un porc et ne revendique que le droit de dire des bêtises à la radio une fois par semaine. À bon entendeur, salut les mécréants !
Merci Pascal,
bravo.
Il est vrai que le dernier podcast de l'année 2019, c'était une leçon de mathématiques. Enfin, il y avait soigner sa sortie, hein, c'est bien le même podcast.
C'est le suivant. Les maths, c'est le premier de 2020.
C'est le premier de l'année 2020, ouais. Pardon. Professeur Boursier.
Ah oui, non, le dernier, c'est l'équation.
L'équation.
Qui était de tête, l'équation.
Bah, l'équation de la...
Non, mais qu'est-ce qu'on multipliait par...
Par quoi ?
Valeur multipliée par espérance, divisé par rumination, qu'est-ce qu'on fait ?
Impulsivité.
Impulsivité.
que multiplie.
Et que multiplier, que multiplie le retard.
Bravo.
C'est une science exacte.
Tout à fait.
Alors, quand as-tu décidé de passer du 3615 Oriane à www.orianesavoureetlucas.com après ta formation de coaching, t'as pas eu envie de mettre une plaque, d'avoir un cabinet, ou directement tu t'es dit faut que je passe par internet?
Non, en fait, ça a été pas du tout construit. Ça s'est fait au fur et à mesure. Il n'y avait pas de vision très claire de comment j'allais faire et vers quoi j'allais. Mon envie, c'était vraiment de me former et au départ de mettre du coaching dans le poste que j'avais à l'époque. Et puis, j'ai pu en mettre un petit peu, mais j'avais envie d'en mettre beaucoup plus. Et puis, j'avais deux jeunes enfants, des enfants en bas âge. Donc, j'avais pas forcément envie de me lancer tout de suite à mon compte. Oui. C'était pas forcément une envie que j'avais. Je suis pas née en me disant je vais être une entrepreneuse. C'était pas quelque chose qui était une évidence pour moi. Et donc, même l'entrepreneuriat, pour moi, ça, j'avais pas l'impression que c'était pour moi, a priori. Donc, puis petit à petit, ça a fait son chemin, ça a mûri.
T'as commencé à vendre des enfants.
Voilà, du coup j'ai... non, pas du tout, enfin.
Pardon, c'est enregistré, on coupera au montage.
Et donc, en fait, c'est petit à petit où j'ai eu envie d'en mettre plus, mais je pouvais pas à l'époque cumuler mes activités, ce que j'avais imaginé au départ. Oui. Et donc, je me suis dit que le podcast que moi, je consommais en tant qu'auditrice, j'adorais écouter des podcasts, je me suis dit, en fait, voilà un espace de création, de liberté, qui était au carrefour de plein de choses qui me passionnent. La rencontre, la création, l'écriture, la voix, puisque j'utilise beaucoup ma voix par ailleurs, je chante, etc. Donc c'était pour moi, vraiment, je me suis dit, voilà un médium qui va me permettre d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, de la manière, et parce que je trouve que le podcast permet cette liberté-là dans le format, dans le contenu. Et donc, c'est parti vraiment comme ça, en me disant, je vais me faire plaisir et je vais parler du choix, parce que pour moi, pour le coup, c'était une évidence. Et pour le coup, je me suis vraiment...
c'est le fil rouge, le choix.
C'est le fil rouge de toute ma vie. Ce qui est très bizarre, c'est que je me suis littéralement réveillée un matin en me disant, je vais faire un podcast, ça va s'appeler « Avez-vous choisi ?» Je vais parler du choix et je vais faire des billets et je vais interviewer aussi des gens qui m'inspirent et que je trouve inspirants dans leur rapport au choix. Il y avait une sorte d'évidence. Par contre, ce n'était pas du tout évident sur le comment j'allais faire.
Voilà. Comment c'est fait? On va en écouter un extrait, comme ça permettra à tout le monde de se mettre un petit peu dans l'ambiance. T'as ça, Clément, sous la main? Alors, donc, petite musique.
Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouret-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix.
Allons-y.
Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. Ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et essoufflées à révéler leur singularité et leur choix authentique pour se créer une vie sur mesure.
On est bien...
D'accord, c'est bien toi qui fais ça.
Ça, c'était le dernier de l'année 2019.
Tu assumes toujours.
Tout à fait. D'accord,
C'est agréable à écouter.
Oui, ouais. L'année 2019 touche à sa fin. Et avec elle, c'est une décennie tout entière qui se clôture.
Ouais.
Une nouvelle décennie va s'ouvrir.
Tu peux accélérer un peu, Clément, s'il te plaît.
Ouais. C'est un nombre qui me plaît beaucoup. Moi qui fais partie de ces personnes adeptes.
Bah là, on comprend moins ce que tu dis.
C'est tout de suite moins clair.
Tout de suite, ça parle.
C'est plus subliminal.
Ouais, voilà, c'est ça, super. Hop, comme ça. C'était pour illustrer, évidemment, donc on n'a pas besoin de tout comprendre, de tout écouter. En revanche, au début, il y a toujours la musique, la présentation.
Ouais.
Et à la fin, on a également tes vœux de bonheur pour les gens qui t'écoutent. Ça, c'est vachement sympa.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savouret-lucas.com. Je vous souhaite une période de fin d'année à la hauteur de vos souhaits. Et je vous donne rendez-vous le 10 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout?
Et ben voilà, et tout cela, on les retrouve sur oriane-savouret-lucas.com.
C'est ça.
Slash avez-vous choisi, voilà, tout ça.
J'ai une question,
Pascal Boursier.
Sur le choix. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, quand tu dis les gens qui sont un petit peu en confusion, qui sont épuisés, ils vont évidemment souvent te dire non mais moi j'ai pas le choix, arrêtez de me parler de choix, j'ai pas le choix. J'ai mon boulot, j'ai mes impératifs, j'ai fait pas ce que j'ai voulu faire de ma vie. Il y a des enchaînements qui ont fait que je fais ce boulot là, j'ai cette vie là, j'habite ici, je fais ça. Mais comment tu peux éclaircir cette notion de choix pour quelqu'un qui a l'impression de ne pas l'avoir, comme beaucoup de gens?
Ça, c'est un point important parce qu'effectivement, on peut être amené à rencontrer des personnes qui de manière très authentique, sont convaincus qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je suis convaincue qu'on a toujours le choix et qu'on a... Alors, parfois, on peut nous dire, mais non, j'ai pas choisi les événements qui me sont arrivés. On a toujours le choix de la paire de lunettes qu'on porte, en tout cas, et de, je dirais, l'interstice qu'il y a entre l'événement et la réaction qu'on a face à l'événement. Ça, c'est une première chose. On a toujours le choix de la manière dont on va réagir à ce qui nous arrive. Et puis, on a toujours le choix de rester ou de partir. Mais ça, c'est valable pour tout. Et moi, c'est vraiment une question, pour le coup, qui est une question que je me pose très régulièrement. Moi, j'ai l'habitude de dire que je signe des CDD avec tout. C'est est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue ? Mais pour tout, parce que je trouve que c'est... En fait, on a tendance à considérer... qu'on est dans notre roue à hamster, dans une sorte d'engrenage qui fait que on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et effectivement, on peut se convaincre de ça, mais on peut aussi décider de faire une pause.
Prendre les choses en main.
Et avant même de chercher à prendre les choses en main, de s'arrêter et de dire, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ma vie ? Et est-ce qu'elle me convient ou pas ? Parce que parfois, on peut aussi s'apercevoir qu'on râle sur une vie qui finalement nous convient pas si mal que ça. Et qu'on peut faire le choix de la rechoisir sans rien changer. En fait, il ne s'agit pas de changer à tout prix, c'est juste de faire une pause et de se réinterroger sur est-ce que c'est bien ça dont j'ai envie ? Si oui, génial, je valide, je revalide, et du coup, je ne me plains pas parce qu'en fait, je l'ai choisi, et du coup, je peux avancer et déployer mon énergie sur autre chose que me convaincre que ce que je vis, c'est pas chouette et c'est pas ce que je voudrais vivre. Ou à l'inverse, si effectivement, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, concrètement, qu'est-ce que je mets en place ? Parce que très souvent, je constate qu'on sait ce dont on ne veut plus ou ce dont on ne veut pas, mais on ne sait pas exprimer ce dont on a envie, vraiment. Et si on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là, bizarrement, la vie passe et on passe notre vie, en fait, à courir et à honorer des to-do lists à honorer des projets qui ne sont pas forcément les nôtres, sans honorer ceux qui sont profondément les nôtres.
Le rôle du coach, c'est d'accompagner et à la limite que la personne qui est avec toi choisisse d'elle-même, est ses propres choix d'elle-même ou est-ce que tu vas accompagner jusqu'à aussi proposer ? C'est-à-dire que quand tu coaches quelqu'un, tu le connais mieux. Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passifs, qui sont plutôt en attente de ta part, de leur dire « moi, ce que je vois d'après toi, je vois quand même une direction qui est assez claire. Est-ce que tu te permets ça ? Est-ce que tu t'autorises ça ? Ou est-ce que de toute façon, ça sera à lui, grâce à ton accompagnement, de se dire « mais c'est évident, c'est là qu'il faut que j'aille, où que je sois ».
Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce que tu viens de poser. C'est que d'une part, parce que tout à l'heure, on a évoqué, et j'ai entendu le mot de « aider les autres », le coach n'aide personne, en fait. On n'est pas dans une relation d'aide, on est vraiment dans une relation d'accompagnement. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, et on n'est pas là pour conseiller. Un coach n'est pas un conseil. Et ça, c'est hyper important de le comprendre et de le poser. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disaient si j'investis dans un coaching, est-ce que vous pouvez me garantir que je vais arriver à tel résultat ou que je saurai ce que je vais faire après ? Et moi, je dis toujours le coaching, surtout si un coach un jour vous dit je vous garantis l'atteinte de ce résultat-là, c'est pas du coaching en fait. Éventuellement, on peut être dans une posture de consulting ou de conseil, mais ce sera pas du coaching. Le coach, il est vraiment là pour accompagner à relancer un processus de créativité chez une personne qui est bloquée, qui en circuit clos, en circuit fermé, ne trouve plus de solution à son projet, à son envie. Et donc, en fait, le coach, il est là pour être à côté, pour faire front avec la personne face à sa situation. Et le coach, elle ou il, est garant en fait d'un processus de changement. Donc ce qu'on peut garantir par contre, c'est qu'il y aura du changement. Mais si on veut s'engager dans un coaching, d'une part, il faut qu'il y ait une demande, il faut que la personne elle en ait envie. On n'envoie pas quelqu'un de son entourage faire un coaching. Ça doit rester une envie et un choix personnel.
C'est pas un cadeau de Noël ou un... Non.
Sans demande, sans envie, c'est voué à l'échec, en fait. C'est du temps perdu pour tout le monde, de l'énergie.
Ça prend combien de temps, un coaching, en général ? En moyenne ?
Avec moi, c'est sur 8 mois. Je fais des coachings individuels. Ouais, je suis très bavarde. Hein. T'as vu ? Non, en fait, c'est
moi, les 8 mois. Moi, c'était 3 semaines.
C'est pas 8 mois.
3 séances effectives, sinon.
Je précise.
3 séances de 2 mois.
Ah, donc, Sabine, puis alors, l'épisode armé, machin.
Je ne m'installe pas chez les gens, hein. Je précise, je rassure tout de suite, je ne m'installe pas pendant 8 mois. C'est vraiment, c'est 8 séances en fait de 2 heures sur 8 mois, espacées d'une...
Ah, c'est tout.
Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est il y a les séances de coaching, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe entre les séances de coaching. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner à relancer son propre.
C'est l'évolution là. C'est en fait ce qui est intéressant, c'est le moment où tu n'es pas là, c'est entre ce qui, entre les deux.
Bah les deux, ouais. Les deux, c'est pendant et après.
Question, bon, sans te demander évidemment ta feuille d'impôt, c'est quand même ton travail.
Oui.
Donc il faut générer de l'argent. Est-ce que la finalité de ces podcasts, c'est de trouver des nouveaux clients? Ça sert à ça aussi? On te contacte suite à l'écoute de ton travail?
Alors. Au départ, quand j'ai créé le podcast, j'avais pas du tout l'idée de me lancer à mon compte. Donc c'était vraiment un projet.
Parce que quand t'as créé la page, c'était bien pour promouvoir aussi tes prestations de coach.
Non, alors à l'époque, je n'avais pas de prestation de coach. Mon site, il a récemment évolué depuis que là, je me suis lancée.
D'accord.
En septembre.
Donc,
en fait.
C'était pour partager.
Mais c'était vraiment pour partager le contenu de mon podcast et parce que j'avais vraiment à cœur de diffuser ces réflexions autour du choix et le fait qu'on choisit tout dans nos vies et autant mettre de la conscience dans nos choix. Puisque de toute façon, on choisit tout, autant s'interroger sur les choix qu'on fait.
Et aller marier avec un fils savouré, et les savourés, ils sont pétés de thunes, hein, ça se sent.
Ça se sent, hein.
Autre chose dont il faut absolument. Donc, les podcasts, vraiment, je vous recommande d'aller les écouter, enfin, quelques-uns, parce qu'on peut aussi choisir suivant les thématiques qui nous intéressent plus ou moins. Un mot sur les conversations. Comment tu choisis les personnes que tu décides d'interroger? Est-ce qu'il faut absolument qu'elles aient fait un choix important dans leur vie pour transmettre?
Et pourquoi pas nous?
Et ben
oui,
pourquoi
mais
pas.
Non, mais comment tu procèdes et est-ce qu'il y a une sorte d'obligation de résultat, quoi, une histoire à raconter, quelque chose?
Alors, c'est
mon côté thé au café.
Oui, non, mais j'adore parce que justement, ce qui est intéressant, c'est l'idée que tu as au départ et puis c'est rétrospectivement ce que tu découvres des points communs dans les parcours de tes invités aussi. C'est peut-être que ça vous arrive de faire ce retour-là aussi sur les gens que vous interviewez. Mais moi, au départ, ça a vraiment été, encore une fois, c'était un projet hyper entre guillemets assez égoïste, quoi. J'ai voulu m'éclater, j'ai voulu faire mon projet, j'avais envie de rencontrer des gens que moi et ce que j'explique tout à l'heure, j'adore rencontrer les gens, écouter leur histoire, et j'avais envie de rencontrer des gens que je trouve inspirants dans leur rapport au choix et dans la manière dont ça s'est matérialisé dans leur parcours personnel et professionnel. Donc en fait, très basiquement, quand j'ai eu l'idée du podcast, j'ai commencé une liste de personnes que j'avais envie d'interviewer.
D'accord.
Connues ou inconnues, mais que je trouvais moi vraiment inspirantes dans leur parcours. Et puis, au fil des rencontres, ces personnes-là m'ont donné aussi des idées, m'ont partagé d'autres parcours, donné des noms qui m'ont donné envie d'aller rencontrer d'autres personnes. Quand j'ai fait des stages aussi, c'est vraiment au gré des rencontres et des lectures aussi, je lis un article. Ce qui fait qu'en fait, là, sur le, je ne sais pas combien j'en suis d'interviews, ça va être une vingtaine maintenant. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'il y a des gens très connus. Alors, j'ai interviewé des mentors pour moi, donc notamment Florence Servan-Schreiber, que j'ai interviewé. Et là, ça a été vraiment le coup d'audace où je me suis dit, après tout, on vit une belle époque. Les réseaux sociaux, on peut contacter les gens. Alors, ils nous répondent ou pas, mais on a un moyen. Quand j'étais devant mon Minitel, j'aurais eu du mal à contacter les gens que j'avais envie de contacter quand j'avais 18 ans. Mais là, du coup, je me suis dit, j'y vais, je verrai bien. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, pourquoi pas. Et je me retrouve devant la sonnette à Paris de Florence Servan-Schreiber en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Et elle a fait le choix de te répondre, c'est certainement qu'elle a senti quelque chose.
Ouais,
aussi.
Et elle m'a aussi, et c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est un échange, c'est une rencontre
pour elle
et surtout pour moi aussi,
bien sûr,
parce qu'en fait elle m'a autorisé. En fait, je rencontrais vraiment mon mentor depuis 10 ans. Et souvent, c'est ça, les gens qui nous inspirent, c'est les gens qui sont un petit peu plus en avance sur le chemin qu'on aimerait bien parcourir aussi.
Ouais.
Et elle m'a dit à la fin de l'interview, j'ai adoré cette interview, écrivez un livre, continuez. Et en fait, je suis rentrée dans le train, j'étais en feu sur mon ordinateur en train de commencer à écrire un bouquin que j'ai publié depuis.
Faut que tu nous en parles.
Et, ouais. Et voilà, il y a toute cette aventure là qui voilà.
Oui,
donc chaque rencontre.
Et plus récemment, Bolewa, magnifique black danseur, avec des tablettes de chocolat. Oui, voilà, c'est
ouais,
ça.
Je fais des bons choix.
Un mentor.
Quelques instants sur le livre et puis je voudrais qu'on termine aussi sur râler. J'arrête de râler.
Ah oui.
Et en quelques minutes, c'est possible.
C'est possible.
Alors allons-y pour le bouquin.
Pour le bouquin. Alors,
que tu as évoqué sur les réseaux sociaux, donc c'est peut-être bien avancé.
Ok. Alors oui, c'est bien avancé. Je l'ai écrit dans le cadre d'un concours justement dont Florence Servan-Schreiber était la marraine. Donc je l'ai écrit à partir justement des épisodes que j'avais déjà à l'époque créés pour le podcast. Ça s'appelle Précis de conversation avec le choix à l'usage des rares personnes qui ne savent pas choisir. Et c'est très ironique.
C'est vous dire.
Ok. Alors vas-y, rends-nous dire ça.
Précis de conversation.
Un précis quoi? Un précis de conversation.
C'est un petit document de, pour voilà, réfléchir autour de la question du choix.
Ah, vous voilà. Le connaissiez les gars le terme?
Précis de conversation.
Un précis de conversation.
Non, mais
c'est beau, c'est très joli.
Ça donne envie de...
C'est chouette, hein. Ouais.
Précis de conversation avec le choix. Donc on imagine, voilà, j'ai vraiment l'idée de comment est-ce que je me mets en conversation, moi, avec le choix, le lecteur avec le choix. Pour les, à l'usage des rares personnes, le rare est entre parenthèses, qu'il est vraiment très ironique, parce que depuis que j'ai lancé ce podcast, un nombre incalculable de personnes me disent « mais moi je sais pas choisir, j'arrive pas à choisir ».
C'est bien, t'as parce du boulot, vit, moi ça te fait du taf.
Ouais, mais c'est surtout que c'est très représentatif de notre époque, où ouais. On vit dans
tellement de choix, tellement de possibilités de consommation. De...
Et on est dans les premières générations qui n'avons jamais eu autant de choix, et on sait pas
et
faire.
On sait pas. Du il y en a trop.
Il y en a beaucoup, trop. Et donc, comment est-ce qu'on apprend à choisir?
On a trop choisi pour nous, peut-être. La question est ouverte pour une prochaine émission. Ouh. Et puis, parle-nous quand même de cet onglet sur ton site internet, J'arrête de râler.
Ouais.
Parce que ça.
J'arrête de râler. Alors, moi, en fait, je suis ambassadrice du réseau, ambassadrice certifiée du réseau J'arrête de râler, qui a été créé par Christine Levicky, qui est une coach que j'ai rencontrée au début d'ailleurs, qui a été alors, aussi pas mal à l'initiative.
C'est pas un réseau de toutes les emmerdeuses qui nous entourent?
Non, non, non.
Je suis ambassadrice. C'est inquiétant comme nom. De...
Non, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a toutes vécu le challenge J'arrête de râler.
Ou tous?
Et alors, il y a quelques hommes qui arrivent là, ça y est, mais c'était beaucoup des femmes.
Parce qu'on va crier à la discrimination, nous. Hein.
Ah ben oui, mais justement, mais venez, rejoignez-nous.
Ah oui, volontiers.
Parce que les hommes continuent de râler, tu sais.
Ouais. Oui, mais l'homme, s'il râle pas, est-ce qu'il a vraiment envie de ne plus râler? Il y a ça aussi. Ouais. C'est une seconde nature, c'est un moyen d'expression.
Bah, c'est un moyen, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas, la râlerie. C'est juste ça. C'est-à-dire que.
Rien.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de dire.
Ouais, c'est vrai.
Bon, en fait, arrêtez de râler. Si ça fonctionne, surtout n'arrêtez pas. Moi, c'est ce que je dis toujours.
Oui,
c'est toujours pareil. C'est-à-dire que arrêtez de râler. En fait, souvent, il y a une souffrance derrière. Il y a des gens qui se disent, en fait, je râle. Moi, c'est comme ça que ça a démarré. C'est que j'étais maman de mes enfants avaient 1 an et 4 ans. Et je me apercevrais beaucoup de tristesse que je râlais sur les personnes que j'aime le plus au monde.
D'accord.
Et ça me plaisait pas du tout. C'était
donc
pas du tout la personne
que j'avais
envie. J'ai fait le
choix d'arrêter de râler.
J'ai fait le choix de me lancer dans le challenge, d'arrêter de râler. Et puis, ça avait beaucoup de sens pour moi après de porter ce message-là aussi et de le porter à la fois pour les familles et aussi en entreprise parce que j'ai une connaissance de l'entreprise et dans l'accompagnement.
Alors, en deux secondes, pour expliquer un peu le truc, c'est quoi cette histoire de petit bracelet qu'on retourne à chaque fois?
Alors, le bracelet, je l'ai là, vous voyez. Alors, on n'est pas très visuel à la radio, mais j'ai un bracelet à un bras.
Alors,
et donc,
rose pétant.
Il y a d'autres couleurs, il y a du vert, il y a du orange.
Tu montres à Aurélien, il va faire une photo, comme ça les gens pourront les voir sur le Facebook de l'émission.
Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est de faire 21 jours consécutifs sans râler. Ce petit bracelet-là, alors ça pourrait être aussi une bague, ça peut être autre chose, mais l'idée, c'est que ça nous rend visuel le temps où on ne râle pas. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque nouvelle râlerie, on change le bracelet de côté, tout simplement. Hop,
d'accord.
Je le fais pour la petite photo, n'est-ce pas? Hop, j'ai changé de côté. Et en fait, c'est surtout un moyen... moi, comme je dis souvent, l'objectif, c'est pas tant d'arrêter de râler. C'est plutôt de se dire, en fait, j'aime plus râler. J'aimerais bien faire autrement. Ouais. Mais comme la râlerie, c'est un petit peu le mode automatique. On râle parce qu'on a l'habitude de râler et on sait pas trop pourquoi. C'est d'aller un peu déconstruire cette habitude et voir ce qu'on peut faire à la place de râler. Et surtout pour que notre besoin... Il y a quand même un besoin derrière la râlerie. On n'est pas là... On râle pas juste comme ça. Donc, c'est d'aller prendre le temps d'observer nos besoins et de trouver des stratégies beaucoup plus efficaces et efficientes pour faire passer nos messages et vivre un petit peu avec plus de sérénité dans nos relations familiales, professionnelles.
Et tout cela, on le retrouve également, parce que tu es représentante, mais on le retrouve sur j'arrêtederaler.com.
Tout à fait,
qui regroupe toutes ces méthodes et toutes ces conférences, les ateliers, etc.
Mais ça, c'est vraiment des projets que j'adore. Et là, je repars en mai, par exemple, aussi, accompagner un cercle de femmes avec une autre coach, une amie coach, à Djerba. Donc, c'est aussi un métier qui me permet de voyager et de créer des espaces pour que chacun se pose les questions sur qu'est-ce que j'ai envie de mettre au cœur de ma vie, en fait, et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi.
Donc, le système, c'est que tu parles avec des gens d'ici ou c'est plutôt à proposer aux gens qui habitent là-bas?
Alors, c'est proposé à tout le monde, mais en l'occurrence, sur la première édition qu'on a faite en octobre, c'était que des femmes françaises qui ont fait le voyage et qui ont eu envie de s'offrir nous on l'appelait la pause inspirante. Donc, c'est 3 jours où, en gros, tu déconnectes un peu de ton quotidien et tu fais le choix de te remettre un peu au cœur de ta vie et de remettre les projets.
Vous prenez un guide et puis vous allez dans le désert et puis
on est dans une belle villa et on a des conversations
Si je mets une jupe et une perruque, je peux...
Ah ben, non, ça passera. Mais on est en train de réfléchir justement à proposer un cercle pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Donc
voilà.
Eh ben, tu reviendras nous voir. Parce que j'aimerais la voir, moi, mais je n'ai pas le choix que de vous quitter, chers amis. Donc ça sent le générique, ça sent évidemment
ça sent
les
la
adieux.
Fin. Mince, ouais. Déjà.
Mais déjà, c'est on peut fou, te retrouver hein. Sur Internet.
Mais oui, mais oui, venez m'écouter.
Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangers.com.
Oui, c'est vrai, on pourrait peut-être se remettre la musique zen de tout à l'heure, comme ça on terminerait en toute zénitude, évidemment, avec Oriane. Un grand merci d'avoir trouvé le temps, d'avoir ouvert le livre de ta vie et de tes choix, ici même, dans cet Afterwork. On te retrouve chaque semaine sur oriane-savouré-lucas.com. C'est bien ça?
C'est ça.
Sur tous les réseaux sociaux aussi.
Tous les réseaux sociaux.
T'es bien
sociaux.
Présente. Ouais. Et puis allez faire les curieux, je vous encourage vraiment à aller visiter, chercher une thématique qui vous plaît.
Il y a plein de choses à lire.
Et puis de se poser, les podcasts ils feront entre 5 et 10 minutes.
C'est suivant, super. Ouais, c'est
pour
bien.
Les billets,
c'est
vrai, ouais, c'est pour les long. Conversations c'est une heure plutôt.
Une heure, d'accord.
Ouais, jusqu'à une heure.
Ouais. Ouais, j'aime bien prendre le temps comme
ouais,
vous,
ouais,
quoi.
J'en ai écouté. Ah, oui. Bah oui, mais tu as raison, c'est bien. Merci en tout cas de ta visite.
Merci beaucoup de votre accueil, c'était vraiment un plaisir.
Plaisir.
Merci
Clément d'avoir été là pour la réalisation. Aurélien, les photos, on les retrouve sur le podcast, sur le Facebook de l'Afterwork. Merci Aurélien, merci beaucoup Pascal Boursier.
Merci copain.
De cette petite goutte de sueur, de ta générosité. Et puis on parle théâtre la semaine prochaine avec la compagnie Zig Zag pour leur création, Le Rat. Waouh, quel programme! À très bientôt, merci Oriane! Ciao!
Merci Olivier, merci à tous! Merci.